tous. 7 janvier 2015, 18 mars 2020. Quand un événement fait-il date? Quelles sont les grandes dates de l'histoire récente? On en parlera à partir de 12h55 avec notre deuxième invité, l'historien Patrick Boucheron. Il est professeur au Collège de France et la saison 2 de la série qu'il a coécrit va bientôt débuter sur Arte. Quand l'histoire fait date, à retrouver donc très prochainement. Mais d'abord, Blandine Rinkel, écrivaine. Elle est notamment l'auteur du Non secret des choses, paru à la rentrée dernière. Elle est aussi musicienne avec son groupe Catastrophe et toujours en binôme avec Pierre Jouhan. Elle lance aujourd'hui une comédie musicale libre et déjantée, ça s'appelle Gong, et c'est à voir bientôt sur la scène du 104 à Paris, puis le 10 février probablement au Trianon, et à écouter surtout en CD sur le label Tricatel. Bienvenue à tous.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et bonjour Blandine Rinkel.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Dans un spectacle à venir avec le groupe Catastrophe, vous serez 6 sur scène, probablement, c'est peut-être à géométrie variable, parfois un de plus.
On sera 8, on est 6 dans le groupe, mais il y a 2 danseuses en plus.
Chacun d'entre vous incarnera une émotion, la colère, l'ennui, le rire, vous serez l'inquiétude. Pourquoi? C'est une nature chez vous, l'inquiétude, ou c'est un sentiment plutôt conjoncturel?
Non, je crains qu'il s'agisse bien d'une nature. Non, je pense que je suis inquiète depuis l'enfance et que ce n'est pas sans rapport avec le fait d'avoir des activités variées et une hyperactivité palpable.
Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui?
L'état du monde, le fait qu'en venant, enfin qu'on se soit rencontrés, vous et moi, à l'instant, masqués. La bêtise qui gagne du terrain, des élections présidentielles, voilà, tout un tas de choses. Et peut-être plus précisément, concrètement, l'idée que toute notre tournée risque d'être annulée incessamment sous peu.
Ouais. C'est déjà tangible?
Oui.
C'est discuté, c'est évoqué?
C'est-à-dire que nous, on a décidé de sortir... ce disque et cette comédie musicale, malgré et peut-être en raison du contexte. Enfin, c'est-à-dire qu'on trouve ça d'autant plus pertinent et important de faire une comédie musicale et de réinsuffler une forme de joie dans une époque tragique, inquiétante, anxiogène. Enfin, on trouve que c'est d'autant plus important. On fait pas de la musique ou de la scène seulement quand les choses vont bien. Donc c'est une décision qu'on a prise. Tout en sachant que voilà, il y a un grand risque pour que les choses ne se passent pas comme on l'avait entendu. Mais bon, on aime bien la surprise.
Et l'improvisation.
Et l'improvisation
qui est au cœur de votre travail. C'est pas facile de créer dans un monde incertain.
Est-ce que c'est facile de créer dans un monde certain? pas certain non plus. Si, c'est au contraire, ça rend nécessaire le fait de devoir faire de la musique, d'écrire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Enfin, le fait de faire de la musique rend possible d'opérer une certaine catharsis, de permettre des moments cathartiques dont on a plus que jamais besoin en ce moment. Et donc, au contraire, ça réactive. Une forme d'énergie et de vitalité en nous, je pense, bizarrement. Le fait que l'époque soit désespérée et plutôt tragique réactive de l'énergie. Ouais.
Et donc cette inquiétude, ce personnage que vous allez aussi incarner, cette inquiétude qui fait partie ou qui est votre seconde nature, elle ne vous paralyse pas. Elle est aussi moteur d'une certaine manière dans votre action créatrice, artistique. Elle vous pousse à faire.
Oui. Sur scène, c'est assez palpable parce que le personnage de l'inquiétude est le personnage qui danse le plus, qui est toujours en mouvement en fait, qui prend feu aussi. Enfin, qui, si on avait eu des moyens colossaux, on aurait carrément imaginé une boule enflammée quoi. Mais oui, c'est l'idée que d'apprendre à, enfin, ou d'essayer de danser avec ce qui nous fragilise, de danser avec nos vulnérabilités. C'est un peu ça le personnage de l'inquiétude dans la comédie musicale, Gong.
Comme musicienne, vous êtes probablement inquiète, et vous l'évoquez, de la non-réouverture des salles, de l'annulation d'une tournée qui commençait juste à se mettre en place. Et comme écrivaine, est-ce que vous êtes plutôt rassurée par l'engouement des lecteurs pour le livre ? C'est vrai que le secteur du livre, hein, et notamment la librairie, se porte plutôt bien, que les librairies ont plutôt profité de la sortie du confinement. Vous évoquiez à un moment de votre vie, au moment de la sortie de votre précédent roman, Le non-secret des choses, votre inquiétude là encore pour le livre, et tout en vous montrant rassurée que les gens lisent encore. Vous pensez que le livre a encore un bel avenir ?
Je l'espère. C'est vrai que ça apparaît un peu comme la revanche du livre, cette période. C'est une rentrée assez étrange où, en effet, même des gens proches appartenant plutôt au milieu de la pop. En général, le milieu de la pop et le milieu, disons, intellectuel au milieu du livre ne se mêlent pas beaucoup. Et là, je vois beaucoup de gens appartenant donc à un milieu plutôt pop se ruer vers les librairies parce que c'est encore là qu'on peut trouver des traces d'imagination, puisqu'il n'y a plus de scènes, il n'y a plus de concerts, de spectacles, ou très peu, ou dans des conditions plutôt désagréables. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave, on dira désagréable. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une sorte de revanche, et peut-être qu'en effet... l'espèce d'humilité mondiale que nous enseigne cette crise. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mondialisation de l'inquiétude et donc de l'humilité qui va avec, parce que quand on est inquiet, on est peut-être moins arrogant ou moins sûr de soi. Peut-être que ça va avec une redécouverte des livres, envie de voir comment ça se passe dans d'autres vies que la nôtre, comment les autres se débrouillent avec la vie. Ouais, je crois assez à ça.
Et ça a fonctionné pareil pour vous. Dans votre premier livre, vous parliez plutôt de la figure de votre mère, de son parcours, de son humanisme, de sa capacité aussi à se tourner vers l'autre au quotidien dans sa vie. Dans le second, vous aviez plutôt une plume introspective, tentant de cerner aussi votre propre identité et parcours. Est-ce que vous avez écrit pendant le confinement ? Est-ce que vous avez tenu un journal du confinement ? Est-ce qu'après le confinement, ça vous a donné envie à vous, Blandine Rinkel, d'écrire pour parler des autres ?
Pendant le confinement, je n'ai pas tenu de journal de confinement. C'est-à-dire que les railleries incessantes sur Internet quant aux écrivains qui tenaient des journaux de confinement m'ont assez découragée de le faire. Ou en tous les cas, si je l'ai fait, c'est pas tout à fait sous la forme d'un journal. Mais oui, par exemple, pendant le confinement, j'ai lu, j'allais dire Garépa, mais non, pas du tout. Bon, j'ai lu un titre qui m'échappe, mais bon, oublions cette phrase. Mais j'ai lu des livres vers lesquels, des grands classiques vers lesquels je n'ose pas toujours aller en temps normal. J'ai l'impression qu'il y avait en effet un temps profond qui s'ouvrait, enfin une espèce d'autorisation à plonger peut-être aussi dans l'histoire, à retourner en arrière, à voir comment dans d'autres périodes de crise on s'en était sorti, où on avait écrit. Et oui, là je travaille sur un manuscrit qui est beaucoup plus violent, qui est un roman plus romanesque et plus violent, donc sans doute que c'est en lien avec les temps qu'on traverse.
Il y a dans cette actualité éditoriale, dans cette rentrée éditoriale, beaucoup de livres qui s'emparent aussi des questions de notre temps, et notamment de celle de la place des femmes, de la libération de la parole, comme on a dit beaucoup après MeToo, après l'affaire Weinstein. Je pense notamment au livre roman témoignage d'Isabelle Carré, Du côté des Indiens, où elle parle de cette zone grise qu'il peut y avoir autour du consentement, ou à Lola Lafont avec Chaviré, qui s'inspirait d'un fait divers, mais qui est aussi un livre qui questionne beaucoup notre rapport au corps sous toutes ses facettes. Le désir comme désordre, c'est un recueil de textes d'écrivains qui est paru à la rentrée chez Pauvert et auquel vous avez-vous accepté de participer. On a déjà un peu abordé cette question avec Camille Laurence la semaine dernière, qui est l'une des contributrices. Comment vous avez choisi de penser cet élan ? Quel désir.
Ouais, j'ai écrit un texte qui s'appelle Les Abus Gris et qui est un texte sur ces moments où, en tant que jeune femme, on a l'impression de participer ou d'être complice avec des choses qui, ou des actes qui finalement nous font du mal. Je pense qu'une certaine jeunesse peut nous donner l'illusion d'être consentant dans des contextes en réalité humiliants. Et donc j'ai essayé de restituer ça. C'est très, je l'ai écrit, j'aurais du mal à en parler oralement. Je crois que c'est assez impudique, mais voilà, il faut le lire.
Quand on vous a demandé de réfléchir au désir, ce qui est étonnant, c'est que c'est plutôt finalement un anti-désir que vous avez pensé ou qui est revenu dans votre mémoire et que vous racontez ici. Peu importe en fait l'affaire, hein, c'est une séance photo qui vous a conduite peut-être beaucoup plus loin qu'annoncé. Et vous écrivez cette phrase très belle, vous dites que le photographe a vu en vous une jeune femme assez vulnérable et narcissique pour accepter de se soumettre à des désirs qui lui étaient étrangers. Vous êtes nombreuses en fait peut-être à raconter ça aujourd'hui, hein, cette histoire de la zone grise, de ce consentement, anti-consentement. Nous sommes nombreuses, hein, à déployer cet éventail de cas pas si grave mais pas si grave comme vous l'écrivez, Blandine Rinkel, mais à pas vraiment savoir comment en parler ni comment l'aborder. Et pourtant, vous dites que c'est à travers ça qu'on peut chercher l'antidote à la honte. Hein.
Oui, c'est-à-dire que je pense que dans le fait de raconter avec ses propres mots, peut-être à sa manière, c'est-à-dire que l'époque nous donne beaucoup d'outils pour parler d'abus, pas abus, de cas graves, mais pas si graves, des outils numériques, enfin dénoncer sur les réseaux sociaux, mettre des hashtags. Et je crois que dans le fait de se réapproprier par la langue, par les mots, sa propre histoire, et de la dire de la manière la plus complexe et la plus juste qui soit, peut permettre de regagner une certaine puissance et de ne pas se sentir juste... soumis au regard de l'autre, mais de réactiver son propre regard, sa propre subjectivité, dans des moments où justement la subjectivité était tremblante et était peut-être un peu effacée.
Comment se pardonner ? Ça, c'est une question qui vous a travaillé depuis ce moment-là, ou d'autres.
Comment se pardonner ? Mm-hmm. Se pardonner soi ?
Oui.
Intéressant. Non, je crois que je perçois pas la situation. Je ne m'en veux pas. Enfin, avoir honte n'est pas forcément sans vouloir. C'est avoir honte du regard qu'on imagine que l'autre porte sur soi. C'est l'autre. C'est-à-dire que moi, vis-à-vis de moi-même, je m'en voulais pas. Donc non, comment se pardonner, c'est pas une question centrale. J'aurais du mal à y répondre. Mais en revanche, comment dire, comment ne pas laisser silencieux. Ou les silencieuses, la situation, comment la transformer, comment en fait regagner de la puissance. Je trouve que c'est une question que pose le féminisme, où on accuse beaucoup et légitimement les hommes principalement d'actions, de gestes déplacés. Mais gagne-t-on de la puissance là-dedans ? Du pouvoir, oui, mais de la puissance. Moi, ma question, c'était comment se sentir puissant ? Et par le fait d'écrire, de déployer son propre langage, j'ai trouvé une forme de réponse, mais je pense qu'il y en a d'autres.
Et comment s'autoriser aussi, autoriser aux jeunes femmes à être aussi cette jeune femme assez vulnérable et narcissique que vous décrivez, ce qui fait partie d'un temps normal de la vie, et on devrait être autorisé à l'être aussi. Vous avez d'ailleurs, vous, toujours défendu, Blandine Rinkel, la douceur, la fragilité, moins peut-être comme une forme d'élégance que comme une nécessité, justement dans ce monde qui pousse à s'endurcir. Quelle est, vous, votre définition aujourd'hui de l'innocence, de celle que vous chercheriez à tout prix à préserver ?
Quelle est ma définition de l'innocence ? Je crois que ça a à faire avec le fait de ne pas toujours se regarder, en fait, d'oser se déborder, d'oser risquer un certain ridicule, de ne pas être... De pouvoir échapper à son image, peut-être. Je crois qu'il y a une forme d'innocence quand l'image de soi n'est pas première. Et c'est assez compliqué dans une époque obnubilée par l'image, c'est-à-dire qu'on a peur d'être ridicule, on a peur d'être pris en défaut, on a peur qu'une photo de soi sorte sur les réseaux sociaux, qu'il soit mauvaise, on a peur. Là, j'ai peur qu'une phrase, une petite phrase, soit attrapée à la radio et soit ensuite tirée en épingle et reprise par tous. Donc on a peur en permanence, et peut-être qu'il y a une forme d'innocence quand on ose regarder quelqu'un dans les yeux et parler, se déborder sans crainte de ce qu'il en dira. Donc bon, voilà.
À quoi dites-vous encore aujourd'hui?
À la musique, au fait de se réunir à plusieurs et de danser sans se regarder, justement, enfin sans se regarder soi. Je dis encore à la vie, hein. À la vie sans crainte.
Extrait de Gong, le nouvel album de Catastrophe, sorti le 11 septembre, dans quelques jours, dans les bacs. Album collectif, album du groupe Catastrophe, dont fait partie notre invitée, Blandine Rinkel. Elle est écrivaine, elle est musicienne et vient nous rejoindre dans le studio, son binôme, Pierre Jouhan. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Bienvenue à vous, il est midi 20 sur France Culture.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
C'est quoi cette catastrophe, Pierre? C'est celle qui nous attend?
Non, c'est... la catastrophe, c'est celle qui arrive tous les jours. Je pense que on est assez fascinés par les petites fins, les petites morts quotidiennes. C'est pas la grande catastrophe. Je pense que ça serait plus toutes les petites catastrophes et les petites morts et les petits recommencements.
Est-ce qu'on peut dire que le groupe est né d'une envie de développer ensemble une philosophie de vie? C'est pas un si grand mot, c'est peut-être juste une attitude face à tout ce qui se joue au quotidien, face à cet effondrement annoncé, une sorte de philosophie de vie ou une philosophie de l'action. On évoquait le faire avec Blandine Rinkel tout à l'heure, ne rien attendre. Voilà ce que vous écriviez tous ensemble dans un texte sous forme de manifeste, La nuit est encore jeune, paru il y a quelques années, au moment de la création du groupe, laisser place à l'imprévisible, à l'improvisation. Il n'y a rien qui vous fait peur quand vous faites?
Je pense que le fait de faire guérit de la peur, oui, et le fait de se lancer dans les choses, de bricoler, eh bien, permet de, oui, de pas de d'annihiler la peur, mais de la guérir, je pense, oui. Et c'est ce qu'on fait avec Catastrophe.
Alors face à l'inquiétude, Blandine, il y aura vous, notamment, Pierre, la oui. foi.
Absolument.
Ces deux-là se neutralisent ou pas?
Oui, il y a un effet de, pas d'annulation, mais d'équilibrage, peut-être. C'est vrai qu'on a, on a deux tempéraments qui s'équilibrent, je pense, dans le travail aussi.
Vous avez foi en quoi, vous, Pierre Jouan?
Je crois que j'ai foi dans la musique et dans le travail. Je pense que c'est ça qui me permet de vivre.
Cette comédie musicale, vous l'avez conçue à plusieurs. On entendait donc un extrait de l'album apparaître sur scène bientôt, on l'espère, à commencer par le 104 à Paris. Ce serait le 10 septembre, si tout va bien. Dans quel moment de votre parcours collectif vous avez pensé à cette comédie musicale? Comment elle est arrivée comme étant la forme qui vous permettrait de dire au mieux, au plus juste, ce que vous aviez envie de dire?
C'est un vieux rêve chez Catastrophe, un vieux fantasme qu'on avait, je pense, depuis toujours. On a toujours voulu aboutir à cette forme un peu totale qui permet de mélanger tout ce qu'on aime, c'est-à-dire la danse, la musique, les costumes, les lumières. Et ça s'est imposé très naturellement, en fait.
Ça fait 2 ans, en fait, plus précisément, peut-être que ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler dessus, et en fait la comédie musicale était quasiment achevée début mars, quand le confinement nous est tombé sur le coin de la gueule. Et donc c'est d'autant plus pour ça quand les actualités finalement ont rejoint les inquiétudes qu'on abordait déjà d'une certaine manière dans l'écriture de la comédie musicale, qu'on s'est dit qu'il fallait le sortir surtout dans cette période.
Alors c'est une comédie musicale dite sur la forêt, les smartphones et le temps qui passe, avec cette envie d'arrêter un peu le temps. 6 à 8 personnages sur scène dans cette comédie, dont vous, Blandine Rinkel, et vous, Pierre Jouan. Et si la comédie, c'était la possibilité de dire peut-être en couleur tout ce qu'on a sur le cœur, à venir donc une comédie musicale, l'envie vient de loin, les idoles sont d'hier et les influences d'aujourd'hui. 5, 6, 7, 8.
Tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville.
You're gonna do it again, Victoria. Stop smiling, it's not the high school play.
I know, sometimes I do believe. I know, sometimes a man is wrong.
5, 6, 7, 8.
Mademoiselles, I and my friend, we are but soldiers. Passing the time in between wars for weeks at an end.
You shouldn't have the other. I don't want the other.
I don't want the other either.
5, 6, 7, 8.
Lay back, Victoria. Lay back. Lay back.
Hold it, hold it.
Très bien, mes enfants. La leçon est terminée.
Au revoir, madame.
Et n'oubliez pas que vos costumes doivent être prêts pour demain samedi. Dimanche, ça sera trop tard.
Voilà, c'est un cadeau signé Thomas Bou qui est allé piquer dans vos influences, Blandine Rinkel. Cette univers des comédies musicales pour vous? Ça a commencé très tôt. Vous étiez une spectatrice, vous aimiez regarder, vivre dans cet univers enchanté. Enfin, pas toujours, parce que Starmania, c'est assez noir quand même aussi.
Ouais, il y a plein de comédies musicales assez noires, même Cabaret de Bob Fosse qui se passe quand même, sous le régime nazi en fait. Il y a plein de comédies musicales noires. Je tiens à le dire clairement, parce que je pense qu'on a une image de la comédie musicale sucrée, pailletée, où finalement on vivrait dans un univers fantaisiste et un peu déconnecté du monde. Et je pense que le fait de danser et de chanter n'empêche en rien de regarder le monde les yeux ouverts.
Oui. Là, on entendait d'ailleurs un extrait de All the Jazz hein, de Bob Fosse. Ouais. Et les auditeurs.
Sur la fin de vie, par exemple. All the Jazz.
Comme quoi, Les Demoiselles de Rochefort aussi, Jacques Demy, Michel Berger avec Starmania, qui devrait être pris, paraît-il, revu et corrigé, en tout cas par Luc Plamondon, prochainement, à l'aune des enjeux d'aujourd'hui. Alors là encore, avec les incertitudes de la scène, on ne sait pas exactement quand ce nouveau Starmania, pas version 79, mais version 2020, sera à l'affiche.
Mais oui, pour répondre... les comédies musicales, ça c'est une passion en effet qui date de l'enfance, et j'ai pratiqué la comédie musicale à l'adolescence autant que je lisais, je pense, mais j'ai cru qu'il fallait faire un choix, et donc j'ai décidé d'écrire en mettant la comédie musicale un peu sous le tapis. Et comme en France l'image est plutôt mauvaise, enfin l'image qu'on a des comédies musicales, enfin, on n'a pas le goût des comédies musicales comme dans les milieux, enfin dans les pays anglo-saxons. J'ai cru qu'il fallait ne plus en parler. Et puis c'est revenu, notamment grâce à Pierre Jouan. C'est revenu, et c'est vraiment, enfin c'est ce que disait Pierre, c'est vraiment un vieux rêve d'enfant. Et c'est très émouvant de réaliser un vieux rêve d'enfant.
Pourquoi ce vieux rêve pour vous, Pierre Jouan? Et qu'est-ce que la comédie musicale permet de dire aujourd'hui pour vous, plus qu'un concert, plus qu'une pièce de théâtre, plus que...
La comédie musicale, justement, c'est un monde où tout est permis, où on peut tout s'autoriser, où tout d'un coup des facteurs et des conducteurs de bus peuvent se mettre à chanter, à danser. Donc c'est très, c'est vraiment la vie en mieux. Voilà, la vie comme un train qui roule dans la nuit, comme disait la vie qui ne s'arrête pas, comme disait Truffaut. Et donc en fait, je pense que c'est ça qu'on cherche, c'est cette espèce de frisson. Ce je ne sais quoi de en plus, quoi. C'est ça qui nous fait vibrer.
Et on aura l'occasion d'y voir les visages. Je veux voir ton visage et faire la fête. Ce que vous chantez dans l'un des titres de cet album Gong, signé du groupe Catastrophe. C'est assez transgressif de chanter ça aujourd'hui, hein, voir les visages et faire la fête.
ça le devient, mais on l'a écrit avant le coronavirus.
Ouais, ça, on l'a pas imaginé.
Effectivement, il y a des échos, des résonances un peu bizarres maintenant.
Oui, et vous avez raison de rappeler qu'on vit quand même tous dans un vaste réseau social, mais ce sera l'occasion, en allant vous voir au 104 à Paris le 10, d'être vraiment ensemble, pas être dans l'illusion d'être ensemble. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table.
Merci de nous avoir invités.
Pour évoquer Gong, ce nouvel album dans les bacs le 11, et ce spectacle comédie musicale à voir au 104 à Paris les 10 et 11 de ce mois. Merci à tous les deux.